Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Charlotte Chenet. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Alors, je m'appelle Charlotte Chenet, j'ai 34 ans, j'ai lancé ma marque de bijoux il y a 4 ans. Ouais. Avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans à peu près. D'accord. dans la mode, principalement pendant 9 ans chez Balenciaga. Ouais. Et après, j'ai travaillé dans d'autres maisons, en freelance. Voilà. Je peux dire plein d'autres choses à mon sujet, mais là, vu que ça parle de la mode, je vais me cantonner à ce sujet-là.
Très bien. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi ?
Ouais.
C'était quoi tes rêves de gosse et on va creuser au fur et à mesure.
Alors, j'ai grandi dans une toute petite ville qui s'appelle Ciel-Guillaume. Enfin, toute petite, ça dépend pour qui, mais voilà, je crois qu'il y a 2000 habitants. Moi, je trouvais que c'était tout petit. C'est dans la Sarthe, près de la Mayenne, près de l'Anjou. Enfin, voilà, c'est la campagne. Mon rêve quand j'étais petite, c'est de m'en aller. C'était vraiment de m'en aller de cette ville très tôt. J'avais une attirance pour Paris très forte. Comme en plus ma mère avait longtemps travaillé à Paris, j'y venais très souvent avec elle le week-end et tout ça. Donc je comprenais pas trop pourquoi le dimanche soir il fallait rentrer à la campagne alors que je voyais les Parisiens faire l'inverse. Donc voilà, il y avait vraiment un sentiment d'injustice. Mais vraiment vers 5-6 ans, je me rappelle avoir demandé à mes parents mais pourquoi nous on vit pas à Paris ? Bon voilà, après j'ai pris mon mal en patience et dès que j'ai eu mon bac, j'avais un an d'avance, donc à 17 ans, et ben, je suis venue à Paris. J'ai fait une prépa à HEC parce que j'étais pas mauvaise en maths et que je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis au bout de quelques mois, je me suis aperçue que c'était pas pour moi, que j'avais une envie créative un peu plus poussée qui était un peu par... Elle n'était pas apparue comme ça, mais disons que voilà, je l'avais jamais trop laissé s'exprimer. Je m'étais dit, comme mes parents faisaient tous les deux un métier très cartésien, je pensais qu'il fallait que je fasse la même chose. Mon père est pharmacien, ma mère est opticien.
Ah ouais. Ouais, on est vachement loin de la
voilà, mode. Voilà, pas du tout. Voilà, donc des oncles pharmaciens, ma sœur médecin. Enfin voilà, c'était pas du tout le délire. Donc j'y avais pas trop pensé. Et puis en fait, finalement, au bout de trois mois de prépa HEC, un peu du jour au lendemain, j'ai dit à mes parents, ok, j'arrête, je fais de la mode. Et ils étaient plutôt très supportifs et ils m'ont dit, ok, fonce. Et je me suis un peu renseignée. Merci Anna. Je me suis un peu renseignée sur les différentes écoles autour de moi et on m'a parlé du studio Berceau que je suis allée visiter. J'ai rencontré Marie Ruki. Et puis voilà, j'étais enrôlée. Ouais. Et j'ai commencé du coup le studio Berceau l'année d'après, donc j'avais 18 ans.
Et là, t'as eu un coup de cœur énorme.
Ça s'est hyper bien passé. Je me suis fait le premier jour dans la cage d'escalier ma meilleure amie, qui est encore ma meilleure amie aujourd'hui, la marraine de mon fils et vice-versa. Et puis voilà, indépendamment de ça, même s'il n'y a pas que ça, j'ai bien adhéré à l'école. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense que ce n'est pas une école que je recommanderais forcément à tout le monde. J'espère que Marie ne m'en voudra pas. Mais il faut piger, je pense. Il y a un truc de... En fait, moi, j'ai eu vraiment l'impression que ça... Plus que de m'apprendre à dessiner ou de m'apprendre... C'est plutôt un truc de style. C'est vraiment un truc de style. Ça t'aide à confirmer tes goûts. Parce que je me rappelle, quand je suis arrivée, j'aimais un peu tout. Ouais, ça allait de comme des garçons à Versace, à Dolce & Gabbana, à Prada. Enfin voilà, j'avais pas trop de goût. J'aimais la mode, mais j'avais pas de goût. Et vraiment, Berceau, ça m'a aidé un peu à affirmer mon goût. Voilà. Donc ouais, j'ai passé deux très chouettes années. Et puis ensuite de ça, à la fin de la deuxième année, Marie Ruki m'a présenté à Vincent Daré, qui était à l'époque le directeur artistique de la maison Ungaro. Il cherchait de la chair fraîche. Il cherchait une petite assistante, voilà, parce que pff, voilà, à l'époque, moi je le comprenais pas, mais avec le recul, je l'ai compris. Il n'avait pas vraiment de pouvoir chez Ungaro, c'était compliqué financièrement parlant, c'était racheté de voilà. Donc les propriétaires laissaient pas vraiment la liberté à Vincent de recréer un studio, et donc voilà, il avait le droit d'avoir une stagiaire mignonne. Donc il avait appelé Marie, qui m'avait envoyé le rencontrer, et ça a été un super coup de foudre. On s'est adoré tout de suite, et je suis restée à ses côtés jusqu'à la fin de son, j'allais dire, de son mandat, de son job, quoi, là-bas.
Ça a pas,
lui, je crois qu'en tout, il a fait un an, et donc moi, je suis arrivée de quelques mois, donc j'ai dû faire 7-8 mois avec lui.
Et qu'est-ce que t'as appris avec lui, alors?
Alors, j'ai pas du tout appris ce que je pensais, enfin, j'ai pas appris, encore une fois, c'était plus un truc de, c'était un truc d'enchantement, j'ai appris plus, le monde de la mode, c'est-à-dire avec Vincent, j'ai rencontré tous ses amis, il m'emmenait partout, mais vraiment, j'étais comme ça, je sais pas comment il me présentait, sa nièce, les gens savaient bien que j'étais pas sa fille, mais bon, bref, il y avait un truc un peu genre la petite chose qu'on emmène partout, petite dame de compagnie, et voilà, et avec Vincent, c'était drôle, je comprenais pas très bien ce que je faisais chez Ungaro, parce que c'était compliqué, tout était sous licence, alors... Tout à l'heure, tu me disais de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a 20 ans, mais vraiment, je comprenais pas ce que je faisais, parce qu'on m'expliquait pas, que Vincent prenait pas forcément le temps de m'expliquer, parce que pour lui, c'était pas facile non plus. Mais en tout cas, on s'amusait beaucoup. Je le suivais partout. Je faisais des essayages de vêtements, je regardais les chaussures avec le monsieur qui dessinait les chaussures. Je le trouvais sympa, donc je trouvais ça rigolo. Mais j'ai vraiment appris ce que c'était que de travailler dans la mode quelques mois après, quand j'ai intégré le studio de Balenciaga. Disons que mes premiers mois avec Vincent chez Ungaro, c'était plutôt une parenthèse enchantée, quoi.
Ouais.
Je terminais pas tard, je travaillais jamais le week-end, ou alors c'était pour aller au puce avec Vincent. Enfin, c'était des trucs plutôt gays.
C'était pas très violent, quoi.
Non, c'était pas violent, il y avait pas trop de stress. Ou alors peut-être qu'il me préservait énormément, mais voilà, c'était pas pareil. C'était pas les enjeux que j'ai découverts par la suite.
D'accord. Et alors, raconte-nous le switch.
Vincent est parti de chez Ungaro. Je suis partie, du coup, en même temps que lui. J'ai fait un passage éclair chez Sonia Riquel, parce que voilà, j'avais eu la possibilité d'aller atterrir chez Sonia Riquel mais je suis même pas si je suis restée 5-6 semaines. Je me rappelle d'une histoire, donc j'étais au studio tout en haut, de prêt-à-porter. C'était encore Sonia Riquel qui s'occupait des collections. Et puis un jour, j'arrive et on me dit, oui, tu dois aller travailler avec la sœur de Sonia. Parce qu'hier elle t'a vu et elle t'a trouvé mignonne, donc voilà, elle a demandé à Sonia si elle pouvait t'avoir. Donc un matin, hop, je n'étais plus prêt à porter, je me retrouve aux accessoires et aux bijoux. Je commence à dessiner des bijoux, mais alors là je parle de ça, mais je m'en rappelais même pas avant que j'évoque cette anecdote. Il y avait une licence de bijoux, je crois, avec la Chine ou le Japon. Il fallait dessiner des petits trucs kawaii mignons, donc je crois que j'ai dû faire pendant 4 jours ou 5 jours des croquis de bagues. Et en parallèle de ça, Marie-Rue qui m'avait appelé pour me dire, Charlotte, il y a chez Balenciaga quelqu'un qui cherche une styliste junior.
C'est une limite vachement bien.
Et voilà, elle avait donné mon nom plus le nom de 3-4 autres filles de la promo. Okay. Et on a passé l'entretien et j'ai été retenue.
Pour du prêt-à-porter.
Pour du prêt-à-porter. Non, pour du prêt-à-porter. Ouais, pour du prêt-à-porter.
Et la mort du bijou, c'est arrivé bien plus tard.
Ah oui, bien après. Là, d'accord. Je te dis, c'était une anecdote où je viens de m'en rappeler, mais j'avais pas, je m'étais pas remémoré cette anecdote depuis, je sais pas, depuis 10 ans, je pense.
Et donc, alors voilà, ton arrivée chez Balenciaga au prêt-à-porter.
Voilà.
De l'entretien, c'était quoi?
Ouais, je me souviens un peu. Je m'étais pris la tête. Ah là là, comment j'allais m'habiller, mon book, tout ça.
Ouais.
Je me rappelle, c'était une maison qui m'impressionnait énormément. À l'époque, c'était le Graal. Jamais je me serais vue là-bas. Je pensais que j'étais pas du tout.
Est-ce que c'était en quelle année ça?
Alors, je suis très mauvaise en année. Je dirais que c'était en 2005.
D'accord.
Ouais, et c'est ça. 2005. J'avais 20 ans.
Nicolas Giscard était déjà là.
Était là-bas depuis.
C'était quelque chose d'assez.
C'était pas encore gros en taille, mais c'était déjà très 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 pointu, branché. Ouais. Ouais. Ça commençait à devenir.
Donc là, l'entretien.
Et là, l'entretien, c'était avec Sébastien Peignet qui cherchait un assistant, une assistante. J'ai des vagues souvenirs. Je crois que ça s'était pas trop mal passé, mais moi, encore une fois, je m'y voyais pas parce que je pensais que c'était une maison pas à ma portée. J'étais surprise quand Marie-Rocky m'avait appelé pour aller là-bas. Je pensais que j'étais trop girly pour eux ou j'en sais rien. Mais bon, j'étais quand même allée en me disant j'espère que ça marche, puis ça a marché. Et donc, je suis restée là-bas pendant presque 9 ans.
D'accord. Et Sébastien Peignet, c'était qui pour...
C'était alors à l'époque, c'était le tout début des maisons qui voulaient faire des doubles studios, le studio Précole, le studio Défilé. Et donc, c'était le tout nouveau designer pré-collection. Donc, il fallait qu'il fasse une petite équipe pour l'aider à faire la pré-collection, pendant qu'en parallèle, Bouchra Jarrar, qui était encore en poste là-bas à l'époque, s'occupait, elle, du défilé.
D'accord.
Sauf qu'en fait, ça a duré... je sais même pas si ça a duré une saison, cette organisation-là, parce que Bouchra, au bout de, je dirais, 6 mois maximum, est partie. Donc, Sébastien, qui était sur la pré-collection, est passé sur le défilé. Donc, moi aussi, je crois... Et voilà, donc ça a tout de suite bougé. Et puis les organisations internes de studio, c'est vrai que ça changeait toutes les saisons. On essayait toujours une organisation, puis une autre. Moi, en 9 ans, j'ai changé beaucoup de postes. Voilà.
Et t'as fait quoi ?
Alors, j'ai commencé donc assistante de Sébastien sur la pré-collection, au prêt-à-porter. Après, je suis passée sur le défilé. Après ça, j'ai arrêté un peu plus le stylisme pur et dur, c'est-à-dire suivi de développement. Et j'ai fait plus de la recherche de documents pour Nicolas. Ça veut dire que je m'occupais de ses cahiers d'inspiration. Je restais en séance avec lui, je prenais les photos. Ouais. Donc là, j'étais plus... C'était différent. Et puis, au bout d'un peu de temps à faire ça...
Mais comment ça arrive tout ça parce que tu...
En fait, ça arrivait parce que...
Il y avait besoin de quelqu'un
et... Non, ça arrivait parce que en fait, Sébastien et moi, on ne s'entendait pas. Et je pense que Sébastien a exprimé le fait de vouloir changer d'assistante parce que ça ne se passait pas bien. Et du coup, Nicolas a dit « Ah bah, moi, je veux bien Charlotte avec moi pour faire tout ce travail de recherche, machin. » On ne s'entendait pas parce que... je ne sais pas si un jour il écoutera ça, mais on ne s'entendait pas parce que je pense que ouais, j'étais trop grande gueule pour lui, peut-être... C'était assez dur le rythme quand même, c'était même très dur. On travaillait très tard le soir, on sortait assez facilement à 23h, on travaillait les week-ends et pas forcément que avant les défilés.
Ouais.
Ça, je te dis ça, genre avant, genre des mois avant. Il y avait une organisation qui était telle que, par exemple, il fallait que j'attende la fin de la journée pour savoir en gros tout ce qu'il fallait qu'on fasse. On se posait pour faire des points. Enfin bref, il y avait un truc, moi, qui m'allait pas trop. Et donc, je l'ai dit. Et j'ai pas eu peur de le dire.
Ouais.
Et c'est comme ça que j'ai évolué, en fait, dans la boîte. C'est que, à un moment donné, j'imagine que la question s'est posée. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Est-ce qu'on se sépare d'elle ? Tu vois, parce que Sébastien voulait plus de moi. Et puis, finalement, un matin, on m'a dit, ah, bah, ton poste va évoluer. Tu vas plutôt aller avec Nicolas et tout ça. Donc, c'est comme ça que je me suis un peu rapprochée de Nicolas. On s'entendait très bien.
Pourquoi les gens étaient organisés comme ça? C'est un manque d'organisation? C'est comme ça que ça se passe dans la mode, donc on fait toujours comme
ça? Je pense que c'était une maison qui a grossi peut-être plus vite que ce qu'elle devait, que ce qu'elle avait anticipé. Donc une organisation de studio où t'es un peu débordé. Puis je le vois aujourd'hui, les process d'organisation, ça met du temps à se mettre en place. Et puis souvent, on a l'impression qu'on fait tout mieux tout seul, qu'on n'arrive pas à déléguer. Puis à un moment donné, on se dit, il faut quand même déléguer. Donc le moment où tu décides à le faire, ça prend du temps. Voilà. Et puis moi, c'est vrai que j'étais un bébé. Je comprenais pas pourquoi je faisais les choses. Donc forcément, tout est plus lourd. Tout est plus... J'avais pas du tout l'impression d'être libre. Pendant longtemps, j'ai voulu démissionner, mais je le faisais pas parce que voilà, j'adorais la maison, d'être avec Nicolas à ses côtés. C'était aussi un truc super. J'ai énormément appris et je regrette rien. Mais c'est vrai que c'était un peu dur. J'avais commencé à bosser à 20 ans et bah, l'été, il fallait recommencer à travailler, tu vois, le 15 août, alors que tes copains, quand toi, t'as 20 ans, la plupart d'entre eux, ils sont encore à la fac et ils sont en vacances jusqu'au 20 septembre, quoi. Et moi, c'est vrai que le 15 août, bah, je me barrais pour aller bosser parce qu'il y avait le défilé. Tout ça, c'est normal, mais c'est vrai que j'avais 20 ans, j'étais un bébé. J'étais un bébé et j'avais pas forcément la maturité qui allait avec les responsabilités que j'avais au travail, par exemple. Même si c'était des petites responsabilités, mais qui ont grandi au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que oui, à 24, 25 ans, bah, j'avais pas forcément l'âge, souvent, je me rappelle, les gens étaient un peu surpris. Ah, mais t'as que 24 ans. Parce que ça faisait déjà 4 ans que j'étais dans la maison, 5 ans, quoi. Donc voilà. Et les bijoux, c'est arrivé plus tard parce qu'en fait, voilà, mon poste a évolué au fil des années. Au bout de quelques temps de travailler aux côtés de Nicolas pour plus les images d'archives, les images d'inspi, les photos, tout ça, travailler vraiment tout près du vêtement, ça me manquait. Donc je lui ai dit. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les éditions. C'était des vêtements anciens qu'on rééditait, des archives de Cristobal. Et puis aussi, j'ai commencé à faire les projets spéciaux. Donc par exemple, quand il fallait faire... robe pour les Oscars de telle actrice, dessinée spécialement pour l'occasion, tout ça. Parce qu'à l'époque, c'était tout petit, la cellule. bah voilà, Nicolas, il faisait pas des robes longues pour les actrices et tout ça, donc c'était pas son truc. Donc quand on nous en demandait, bah on en faisait à la demande. Donc fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour s'en occuper. Donc j'ai commencé à faire ça, puis j'ai commencé à retravailler sur les collections type pré-collection, défilé, tout ça. Et un jour, je crois que ça faisait à peu près 4 ans que j'étais chez Bentiega, 4-5 ans, il y avait des... Nicolas, il avait envie de bijoux pour les défilés. Et puis personne n'était trop dédié aux bijoux à l'époque, parce qu'il n'y en avait pas. Il y en avait eu un an avant qui avait été fait par Natacha Ramsay. Et puis là, c'est tombé sur moi. Je sais plus trop comment. Ou je sais plus si c'est moi qui me suis manifestée ou si c'est un peu un truc genre, bah toi, t'es là, tiens, fais des bijoux. Et c'est comme ça que j'ai commencé les bijoux et que j'ai adoré et que j'ai jamais arrêté. Voilà.
Très bien. Et donc là, t'as fait des bijoux pendant combien de temps?
Bah du coup jusqu'à la fin, donc pendant 4 ans avec Nicolas, 4-5 ouais. ans. Mais je faisais encore du prêt-à-porter aussi parce que ça occupait. C'était pas une assez grosse ligne. C'est pas qu'on a du jour au lendemain créé une grosse ligne de bijoux. C'est qu'on en faisait en plus des vêtements, donc ça m'occupait pas 100% du temps. Donc jusqu'à la fin, j'ai continué à m'occuper des bijoux et des projets spéciaux, des éditions. J'ai travaillé un peu voilà sur les précoles. J'étais un peu genre hybride. Enfin, je travaillais sur plein de sujets à la fois. Disons que je faisais les éditions, les VIP, les bijoux. Et puis parfois, si au défilé, ils avaient besoin d'aide, j'y allais. Si à la précole, ils avaient besoin d'aide, j'y allais. J'avais des projets indépendants et des projets... Voilà.
Et qu'est-ce que tu retiens de cette époque, de ton travail, de ta collaboration avec Nicolas, avec tous ces gens
Ouais, plus qu'une collaboration, parce qu'à l'époque, voilà, c'était la meilleure école en vrai que j'aurais pu... souhaiter avoir. J'ai appris énormément en rigueur, à repousser sans cesse les limites, à rien prendre pour acquis, à recommencer saison après saison avec des codes totalement nouveaux. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, par exemple, quand on regarde le travail des maisons, il n'y a pas beaucoup de maisons qui se renouvellent tous les 6 mois autant que ce que Nicolas faisait à l'époque. C'est-à-dire que c'est difficile à, peut-être à retransposer aujourd'hui, mais tous les 6 mois, il refaisait une collection qui n'avait rien à voir avec les codes de la précédente. En proportion, en façon, en tissu, en imprimé, pas en imprimé, en tout. Enfin, il y avait une saison hyper, hyper vintage, enfin, hyper inspirée des archives, la saison d'après pas du tout. Donc, c'était hyper riche parce que nous, les stylistes derrière, eh ben, il fallait que saison après saison, on redevienne spécialiste,
d'un sujet
en particulier et puis qu'on oublie ce qu'on a, enfin, qu'on n'oubliait pas parce que du coup, toute expérience est bonne à garder et te constitue pour la suite. Mais c'est vrai que c'était génial. Chaque saison, c'était un nouveau « qu'est-ce qu'on va faire cette saison ?» quoi. Et on repartait à chaque fois dans ouais. des délires différents.
Et le bijou, à chaque fois, il y a quelqu'un qui te prend la main et qui t'explique « va chercher un fournisseur, etc. » ou c'est vraiment...
Non, ça s'est fait de manière assez organique. Je crois qu'à l'époque, il y avait une personne qui s'occupait des boutons chez Balenciaga et qui m'avait dit bah va voir peut-être cet atelier avec qui moi je fais des boutons un peu spéciaux de temps en temps. Donc c'était un peu la seule personne qu'on connaissait autour de chez Bensia qui travaillait le métal quoi. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez eux et je me suis super bien entendue avec eux, j'ai appris pas mal sur le tard et puis après ils pouvaient pas tout faire ces gens-là, donc je sais plus comment j'avais eu le numéro d'un autre atelier où je passais beaucoup de temps dans les ateliers. Donc c'est comme ça aussi que j'ai appris, c'est parce que voilà, j'ai vu comment ça se faisait voilà.
Et comment ça se termine alors cette histoire?
Bah, ça se termine qu'un jour, Nicolas s'en va, je ne le savais pas, horreur, je pleure dans mon lit, je m'en rappellerai toujours, je sais plus où j'étais quand on me le dit, et donc je rentre chez moi en vélo, et j'habitais pas très loin, j'habitais des boulevards à Spaille, et je me rappelle très bien qu'un carrefour, à chaque fois que je passe à ce carrefour, j'y repense, j'étais tellement sonnée, parce que pour moi c'était genre la fin du monde, j'étais tellement sonnée que j'ai failli me faire renverser par une voiture en vélo. Et à chaque fois que je passe à ce carrefour, je revis cette scène. Genre, je sais pas, ça m'a trop... Ça m'a vraiment traumatisé, quoi. Bref, tout va bien aujourd'hui. J'en rêve pas la nuit, j'en fais pas des cauchemars, mais j'y repense quand même en rigolant de temps en temps quand j'y repasse. Et bah voilà, il s'en va. Moi, je le savais pas du tout. Et puis, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est, comment on va faire et tout ça. Et en même temps, ça faisait quand même, ça faisait 8-9 ans que j'y étais et je commençais à me... Ça faisait quand même quelques temps que voilà, que je me disais que ce serait pas mal de faire autre chose, que ce serait peut-être pas mal de couper le cordon, quoi. Il y avait un truc. Donc finalement, je me rends pas compte tout de suite, mais je me dis que finalement, c'est pas plus mal que lui soit parti parce que peut-être que j'aurais pu rester encore.
20 ans,
ouais. Ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être. Donc il part et là, moi je me mets en freelance. Donc je continue de travailler un peu pour Balenciaga. Donc je fais une saison ou deux avec Alexander Wang, je sais plus. Mais bon, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable parce que j'étais déjà partie, j'étais déjà freelance. Et puis Alexander, il était pas souvent là. C'était difficile. Moi, je faisais vraiment partie de l'ancienne école, donc m'inspirais pas. Voilà, j'avais pris.
C'était pas ta cam.
Non.
Et t'es en freelance sur qui, sur quoi?
Ben, j'ai commencé à travailler avec Kenzo en prêt-à-porter. À l'époque, c'était le tout début d'Umberto et Carole. J'ai commencé à travailler pour une maison aux États-Unis qui s'appelait Mayette. C'était le tout début du sustainable, qui n'existe plus, je crois. J'ai commencé à travailler un petit peu plus, mais pas très longtemps après, pour Paco Rabanne, parce qu'il y a Julien Dossena qui a été nommé directeur artistique.
Et que tu avais rencontré chez Balenciaga.
Et que j'avais rencontré chez Balenciaga, qui était mon stagiaire. J'aime bien le dire. Mais voilà. Non, mais il le sait, on en rigole. Ça avait été mon stagiaire, et ensuite il était passé designer. Pas très longtemps. Et voilà, et c'est comme ça qu'en fait je me mets freelance, à bosser pour pas mal de maisons, des projets plus ou moins courts, mais c'est vrai que c'était assez intéressant parce que comme j'avais passé 9 ans chez Balenciaga, j'avais pas trop de mal à trouver des freelances. Mmh. Les gens, ils étaient un peu tout...
Ils étaient on fire quand
voilà.
Ils
étaient Nicolas un peu genre, ah ouais, où vont aller les petites Nicolas, quoi. Genre, j'avoue que c'est eu un moment où c'était un peu genre, je trouvais des freelances hyper facilement, j'avais pas d'enfants, je travaillais beaucoup, et donc je gagnais... super bien ma vie, donc c'était chouette le freelance pendant 2 ans. Sauf que créativement parlant, je m'ennuyais beaucoup. Et j'arrêtais pas de me plaindre que personne n'était aussi fort que Nicolas. Enfin bref, j'avais pas coupé le cordon, quoi. Et un jour, plusieurs de mes amis m'ont dit, bon écoute, ça, t'arrêtes de te plaindre, t'as qu'à faire ton projet, en fait. Plutôt que de dire que les gens ne sont pas créatifs, bah, montre-toi comment tu peux l'être. Et puis c'est comme ça que, de manière hyper organique, ça s'est fait un été, je m'en rappelle. J'étais pas mal avec Julien d'ailleurs, on était en vacances, il me disait, mais fais ton truc. Lui, il avait commencé sa marque. Mmh. À ce moment-là, je sais pas s'il l'avait déjà arrêté, parce qu'à un moment donné, sa marque plus Paco, ça faisait trop. Mmh. Mais c'est vrai qu'il m'encourageait pas mal en me disant, bah c'est difficile, mais c'est très formateur, c'est super et tout ça. Et à la rentrée de septembre-octobre, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il a raison. Ce qui s'était passé en parallèle, que je peux raconter, c'est qu'en fait, pendant ces 2-3 années de freelance, on m'avait appelé pour un gros, gros job dans une très grosse maison que je voulais vraiment. Et c'était un peu un job très global, pas de DA, parce que c'est une maison qui avait un DA global, mais c'était un gros job sur une espèce de DA des bijoux, quoi, où je devais m'occuper à 100% de tous les bijoux, et c'était une boîte qui en faisait beaucoup. Et je me projette à fond dans le job, je prépare un dossier, je travaille sur l'identité, je réfléchis même à un logo, à un packaging. Enfin, c'est la première fois que je me projette vraiment sur un truc global de A à Z, sur voilà. Et puis ça se fait pas, ça marche pas finalement.
Pas
fit, non, finalement en fait ils décident de pas embaucher, de reculer l'embauche. Sauf que moi, j'avais fait tout ce dossier.
Ça prend un temps fou.
Ouais, ça prend un temps fou. Et puis, je m'étais vraiment mis en... J'avais pris du plaisir à le faire. J'avais vraiment dessiné des trucs exprès pour eux. C'est ce que je te dis, j'avais réfléchi au truc global. Et j'ai un ami qui le voit et qui me dit, mais... Enfin, pardon. Il me dit, mais si t'as déjà fait une marque... Enfin, et qui me dit, je t'interdis de leur montrer ça. Tu le gardes pour toi, tu lances ta marque. Donc, c'est venu un peu comme ça, de manière hyper organique. L'atelier est toujours le même que j'avais rencontré au tout début chez Balenciaga. C'est des gens avec qui je continuais de travailler en freelance, par exemple pour Mayette et tout ça. Et ils m'aident, ils me disent « Attends, nous, on va te faire tes formes. » Ils me soutiennent énormément. Enfin, c'était super parce qu'en fait, les neuf années chez Balenciaga, plus en freelance, bah, j'avais rencontré plein de gens, je m'étais fait un réseau. Donc voilà, c'est vrai que le moment où il fallait se lancer, je me sentais pas du tout toute seule. Et voilà, il y avait Lucien, qui était mon ami, que j'avais rencontré à époque Vincent Darret. Donc, ça faisait 10 ans que c'était mon ami, Lucien. Lucien me disait, il était au début de son bureau de presse. Enfin, au début, pas au tout début, mais il était encore au début par rapport à maintenant. Et il me dit, si toi tu te lances, moi je fais ta presse. Donc voilà, il y a plein de gens qui convergent autour du truc et qui fait que le projet voit le jour, mais en quelques mois. Parce que je rentre de vacances en fin août, et puis en octobre, je me dis, tiens, essayons de concrétiser ça. Et en mars, je présentais ma première collection. Et j'étais enceinte.
Et t'étais enceinte.
De 6 mois.
Et là, ça prend tout de suite, non?
Et là, ça prend très bien tout de suite, ouais, j'avoue. Je sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que... je sais pas, j'ai eu une presse démente dès le début. À l'époque, il y avait encore style.com.
Ouais.
Ce qui s'est passé, c'est que Lucien a dit, allez voir cette petite qui faisait les bijoux chez Balenciaga pour Nicolas. Donc, je pense qu'il y a quand même 2-3 journalistes qui se sont dit, Lucien, il nous envoie jamais dans les trucs pourris. Et en plus, elle était chez Balenciaga, elle faisait pour Nicolas. Donc, il y a quand même un truc intéressant. Il y avait eu tout, je me rappelle, j'avais fait des bagues pour le dernier défilé de Nicolas qui se mettait à tous les doigts. Et donc, tout le monde, genre, disait, ah, mais c'était quoi? C'est toi qui as fait ces bagues-là? Tout le monde, genre, voulait savoir si c'était moi. Enfin, il y avait un peu un truc, parce que ça avait été un petit succès et tout ça. Et donc, j'ai une presse démente au premier showroom, premier jour de présentation. Il y avait encore style.com qui existait à l'époque. Et style.com, premier jour de présentation, vient. Et la fille, le lendemain, me poste en première page de homepage des photos, genre, voilà, l'ancienne styliste, naninana. Et je me rappelle, j'étais tellement excitée qu'elle m'avait demandé des photos. Je lui ai dit, mais oui, bien sûr, tiens, voici les photos. Je lui avais donné des photos pas retouchées. Et c'était moi, la mannequin, parce que quand on avait fait les photos avec un copain, j'avais oublié de demander si la copine qui avait des belles mains, que j'avais pris, avait les oreilles percées. Donc en fait, on arrive, je dis, tiens, mais ces boucles d'oreilles-là, le jour du shooting, elle m'avait dit, mais j'ai pas les oreilles percées. Merde. Donc en fait, c'était pas mes mains, mais c'était mes oreilles sur les 2 premiers lookbooks.
Et c'était qui le photographe?
C'est Tim Elkaïm. C'est un photographe qui fait super photos, qui continue de bosser maintenant. Et donc, bref, et Tim, le lendemain, donc moi, je donne les photos au style.com. Et je me rappelle qu'à l'époque, on avait dû faire un maquillage un peu dégueu. Moi-même, j'avais dû me mettre du fond de teint pour que l'oreille soit un peu jolie, ouais. À l'arrache. Et on voyait juste mes cheveux, tout ça. Et je me rappelle que je donne les photos, genre j'appelle Tim le lendemain en disant « Mais tu te rends compte, c'est en homepage de style.com, nanana, avec un article de 15 lignes et tout ça. » Et là, il me dit « Mais putain, t'as donné les photos pas retouchées !» J'avais donné genre 7 photos pas retouchées, dégueu. Dégueu, j'exagère, mais genre lui, il était genre, au fond de
dégoûté,
son... Ouais, il était dégoûté.
Première ne me fois. Crédite pas.
Mais ouais, lui, il était là, genre, putain, mais tu te fous de ma gueule. Genre, à la fois, c'était super, et à la fois, ça, c'est pour la petite anecdote. Donc voilà, il y a style.com qui vient, et à l'époque, c'était genre hyper précurseur, genre style.com. Ouais, moi, je me rappelle, c'était ma homepage de mon ordi, c'était pas Google, c'était style.com. Je me réveillais tous les matins, je regardais. Voilà. Moi, j'ai vraiment un souvenir du site de mode, alors qu'aujourd'hui, j'en regarde aucun. J'ai pas les mêmes.
Mais tu regardes Insta et t'as plus les mêmes needs, enfin les mêmes besoins.
Non, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait un site qui ait vraiment repris le truc de style.com. Bon, bref.
Qu'est-ce qu'il y avait de particulier sur style.com?
C'était la version. Je sais pas, il y avait tous les défilés, il y avait une actu. C'était bien avant.
Plus que les.
C'était le début de Tommy Ton, là, les street style, c'était les premiers à le faire. Mais vraiment, c'était les premiers du tout début. C'était encore Tommy Ton, il était tout seul, il prenait lui-même les photos. Qu'il ait genre 50 000 assistants.
C'était hyper inspirant.
Et qu'il fasse sa marque. Ouais. C'était pas du tout. Ouais, c'était vraiment genre.
C'était hyper précurseur.
Tout début d'Instagram, quoi. Enfin, ouais. C'était pas Instagram, c'était sur Internet. Mais... Donc, bref. Trop cool.
Donc là, t'es sur le devant de la scène.
Un petit peu. La presse est tout de suite super, super accueillante. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. Et en parallèle, j'ai même pas besoin d'attendre que la presse sorte, entre guillemets, et de voir les effets secondaires, du coup, de voir les acheteurs. Les acheteurs sont là tout de suite aussi au rendez-vous. C'est-à-dire que saison 1, Sarah Tchekolette, je crois que c'était la première acheteuse à dire « Ok, moi je t'achète, je te prends la collection. » Et qui la demande même pas en dépôt et qui l'achète, quoi. Donc c'est vrai que
Mais Sarah, c'est pareil, c'est une pote de Lucien ou c'est quelqu'un que tu connaissais déjà?
C'est quelqu'un que je connaissais parce que Paris, la mode, c'est un tout petit milieu. Ouais. Donc voilà, je la connaissais, on n'était pas du tout meilleures copines, mais on se connaissait et je lui avais dit « Ah, je sors mon travail, viens le voir, ça me ferait plaisir. » Elle était passée, elle l'avait pris, quoi. Enfin, donc c'était un peu fou, il y avait ça, il y avait en saison 1, écoute, je crois qu'il y avait Dover Street aussi qui était venue. Enfin, genre, je sais plus, mais genre 7-8 boutiques. Qui faisait que c'était le sésame. Genre, après, saison, du coup, c'est pas saison 2, mais showroom suivant en juin, donc juste quelques mois plus tard. Là, beaucoup de presse était sortie. J'avais Mai Wen qui avait mis les bijoux à Cannes et tout ça. Et donc là, donc deuxième showroom de la première saison. On faisait juste un showroom repeat, quoi, parce qu'en fait, j'avais rien à montrer de nouveau, mais comme il y avait plein de gens qui n'étaient pas venus en mars, et là, entre-temps, ils étaient là, on vient. Donc, pareil, deuxième showroom de juin, ça se passe hyper bien, et ainsi de suite. Donc, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup de chance, parce que super soutien de la presse et super soutien des acheteurs.
Et qu'est-ce que tu ferais différemment sur ce démarrage? Il n'y a rien à changer, en fait. Tout s'est aligné.
Non, il n'y a rien à changer. C'était juste hyper à l'arrache. Bah voilà, les photos pas retouchées, les line sheets pas faites, les prix écrits à la main.
Ça, c'est classique, quoi.
Voilà, des trucs classiques. Les fabricants qui avaient dû se dire, ah, bah elle va peut-être nous demander...
30 pièces de chaque.
Voilà, on va peut-être produire 80 pièces pour elle. On va lui faire des... Voilà, on va dire oui. Donc moi, je me suis dit, ah, bah super sympa. J'avais tout pris pour acquis. Tout le monde me dit, tu vas voir, la prod, c'est compliqué. Je leur avais dit, bah non, moi, ils m'ont dit les prix, ils m'ont dit qu'ils le faisaient, tout va bien se passer. Et puis, en fait, c'était pas 80 pièces, c'était plutôt 500-600. Et j'étais enceinte jusqu'au cou, j'étais toute seule, j'avais pas d'assistante. C'était un enfer. C'était un enfer.
Mais c'est quoi l'enfer?
Bah, l'enfer, c'est. Voilà, je suis en train de faire des tableaux Excel pour essayer de voir ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé. Je vois bien qu'ils ne vont pas me livrer. Et moi, c'est ma première livraison, donc je suis hyper stressée, j'ai envie de livrer à l'heure. J'ai pas le droit de me louper. Et je te mens pas, j'étais en train de faire un tableau et j'ai commencé à avoir des contractions pour aller accoucher. Donc, à l'hôpital, quand mon fils avait. Allez. Je pense qu'il est né dans la nuit, le lendemain, dans la journée, j'ai commencé à refaire des tableaux, j'ai appelé l'usine en leur disant, voilà, je leur hurlais dessus. Et puis quand il a eu 6 jours, 7 jours, je suis sortie de l'hôpital et je suis allée à l'usine avec lui en porte-bébé faire des cartons, quoi. Enfin, c'était l'horreur. Et c'était la canicule. Ça, j'en garde pas un super, super bon souvenir, mais bon.
Non, mais c'est bien de le savoir, et c'est bien que tu le dises.
C'était dur. C'était très dur.
Ça avait l'air assez cool, quoi.
Non, c'était très dur. La première livraison, entre guillemets, je connaissais pas, par exemple, j'avais pas anticipé, je m'étais pas bien renseignée sur les règles pour l'export des bijoux selon les pays, les poinçons, toutes ces choses-là, en fait.
Parce que quand t'es en maison, tu vois pas ça.
Bah non. Tu vois pas.
Il y a des gens qui développent pour toi.
Bah oui, il y a des gens qui développent, il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui shippent, il y a des gens qui vendent. Donc voilà, je voyais pas. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir bossé longtemps dans une maison, dans une seule et même maison, puis après dans d'autres, j'ai pas hésité aussi à solliciter les gens autour de moi pour m'aider. Genre, ah, explique-moi ce que c'est qu'un code, je sais pas quoi, que tu dois avoir pour l'Union européenne, explique-moi ce que c'est que ça, comment je dois faire une facture pro forma. Donc, j'ai sollicité pas mal mes amis autour de moi à l'époque qui travaillaient dans le milieu en leur disant, bah voilà, explique-moi comment ça se passe, des conditions de vente, est-ce que t'as des conditions de vente à me passer? Il fallait les traduire en anglais, donc mon mec m'aidait, enfin, ouais, des trucs à l'arrache. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. Moi, j'avais juste pensé à faire un joli bijou et voilà, quoi, c'est tout.
Ok. Et la suite des événements, c'est quoi alors les... Moi, j'aime bien poser la question. C'est
ouais, ouais, bien sûr. Bah, la suite, c'est que en septembre, donc la marque avait 6 mois. Là, je rencontre Marion, ma collaboratrice actuelle, qui me rejoint. Qui, au début, je me rappelle, je la fais venir. Je lui dis oui, ce sera peut-être genre 2-3 jours par semaine. Bah, je crois qu'en fait, au bout d'un mois, elle était déjà 7 jours sur 7. Parce que voilà, on s'est fait prendre par le truc, mais c'était une aventure géniale. Mais j'avais gagné l'Andam en juillet en plus,
oui, 2015.
En 2015, bah donc quelques mois après le lancement de la marque. Mais c'est vrai que j'oublie souvent de le dire parce que c'est genre j'ai gagné l'Andam 3 jours avant d'accoucher, donc c'est vrai que genre dans l'importance des événements,
c'est secondaire.
Hein. Voilà, c'est un peu plus secondaire, mais donc j'avais gagné l'Andam, donc c'est vrai qu'en septembre. Re-showroom intéressant avec des gens qui reviennent, qui sont excités. Et là, c'était ma deuxième collection en septembre parce qu'il fallait quand même faire des nouveautés. Donc voilà, bref, tout ça, ça s'enchaîne. Les points.
Tu gagnes l'Andam. D'après toi, c'est quoi? T'as été sélectionnée par Nathalie et...
Bah oui. Bah il y a un jury qui vote. Je me rappelle très bien. Les deux personnes avant moi, ils avaient. Moi, je me rappelle, Nathalie, elle m'appelle. Je lui dis, écoute, je crois pas que je peux me présenter à l'Andam, je suis enceinte, je sais pas quand j'accouche. C'est pile à ce moment-là, elle m'avait dit, bah, c'est pas grave, ça empêche pas de se présenter. Au pire, tu vois, tu peux quand même être élue, même si t'es pas là. Ouais, voilà. Parce que c'était vraiment genre touche-touche, quoi. Donc, bref, je me présente, je suis sélectionnée, et le moment d'aller faire la présentation à tout le jury, il fait 45 degrés à Paris. Énorme canicule. Je suis enceinte jusqu'au cou, obèse. Je fais de la rétention d'eau, j'ai des chevilles comme des melons. Je tiens pas sur mes jambes tellement ça me fait mal quand je suis debout. Bref, et donc pour cacher un peu tout ça, je me mets un pantalon noir. Enfin, je me couvre parce que je me dis je suis tellement moche qu'il faut que je me couvre. Donc je crève encore plus de chaud. Et là, je vais faire ma présentation à l'Andam, c'était au Salon des Amériques, je crois. Et il y a Lucien qui m'accompagne. Et juste avant, donc je passais en dernière, avant, à la fin, comme ça, il m'avait dit, t'auras pas à attendre. Au moins, t'arrives genre un quart d'heure avant, t'as pas passé ta journée à attendre dans le show. Ce qui était très sympa de leur part. Et juste avant moi, il y avait deux autres personnes qui passaient. C'était Hugo Mata et Anne-Lise Mikkelsen. Et eux qui avaient préparé la présentation. Ils avaient chacun deux ou trois mannequins. Donc soit qui portaient les sacs, soit qui portaient les bijoux. Les filles, elles avaient une coiffure. Il y avait un petit truc. Moi, j'arrivais avec mon gros bide et c'est tout, quoi.
Et des bijoux sur toi.
Et des bijoux sur moi. Et j'avais un petit plateau dans mes mains avec voilà. Et j'avais une copine au dernier moment. Je lui avais dit, viens avec moi, s'il te plaît, Alix. Prendre des plateaux et pour les montrer, mais c'était même pas pour qu'elle fasse la mannequin, c'était pour qu'elle m'aide à porter les plateaux, parce qu'en fait tout à coup je m'étais dit il faut peut-être plus qu'un plateau. Et donc au dernier moment je vois tous les gens sortir, rentrer, faire des mini défilés avec la coiffure, je vois le coiffeur en train de coiffer les filles devant moi pour... Oh, je dis à Lucien, on se casse, franchement je vais me ridiculiser, c'est... tu te rends compte, je dis, moi j'ai rien préparé, ils vont dire que c'est, tu vois. Puis c'est Lucien, il fait, bah non, on se casse pas, c'est à ton tour ma vieille, donc j'y vais. Et je transpirais, enfin c'était genre waouh, c'était. Et puis voilà, je sais plus ce que je leur dis, je leur raconte un peu l'histoire, je leur raconte les bijoux, la façon dont ça se porte, l'envie de faire des choses différentes, la fabrication française, le vermeil, tout ça. Et puis il fallait parler genre, je crois, 6 minutes. Je crois qu'au bout de 2 minutes j'ai terminé tellement j'ai parlé vite. Et donc et là je sais pas, je pose les bijoux, donc c'est un espèce de U de genre 50 personnes et toi t'es au centre. Et là je pose les bijoux à une extrémité du U et je sais pas, je vois une tête que je connais, donc je lui serre la main et là je commence à serrer la main de tout le monde. Donc ça dure 4 minutes et c'était fini, quoi, il fallait sortir. Non. J'étais gênée, je me disais, mais Charlotte, ma vieille,
pourquoi tu fais ça?
Ben, je sais rien, je sais pas, tu vois, je suis embarrassée, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer.
Donc tu parles même pas alors?
Si, je parle un peu, 2 minutes, 3 minutes, mais après, je pose les bijoux sur une table, je fais passer les plateaux, les gens les essaient, les regardent, puis voilà, après, mais, et je, donc je serre la main de tout le monde. Un peu bizarre. Vraiment, et voilà. Et
mais donc, tu te décontenances pas et tu y vas, quoi.
Non, j'y vais, et puis voilà.
T'as ce côté un peu bold quand même, où tu te
oui,
décontenances pas trop.
Oui,
quoi,
et puis j'y vais, et puis tu vois. Oui, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Puis j'étais là, je sais pas. J'étais là avec mes plateaux et mon bide. Je me disais, bon, bah, tu vois, il va y avoir un truc drôle, je sais pas. Et puis, donc, je gagne. C'était trop chouette, c'était fou. Mais je m'y attendais pas du tout. Enfin, j'étais dans le rush de la marque que j'avais lancée 6 mois plus tôt. Si, j'avais une envie, mais je sais pas comment dire.
C'était quand même quelque chose de ouf, quand même, l'Andam, déjà, non? Enfin, il y avait eu Margiela, il y avait eu APC.
Non, mais c'est pas. C'est la première année qu'il y avait des bijoux, enfin des accessoires. C'est la première année que j'avais des accessoires. En fait, c'est juste que j'avais pas le temps d'y penser. J'avais pas le temps d'y penser parce que.
Au fait, il y a l'Andam.
J'allais être maman, j'avais lancé ma marque, j'étais toute seule, j'avais des points de vente à livrer, j'avais une deuxième collection à faire.
Et à l'époque, t'as quel âge? T'as 30.
À l'époque, j'ai 30 ans, pile. Donc ouais, j'avais pas le temps d'y penser. Je continuais à bosser pour d'autres gens en freelance, donc je n'y pensais pas. J'étais juste la tête dans le guidon. Donc voilà, ça m'arrive, c'est trop chouette. Puis voilà, je sais plus, ça c'était une aparté que j'ai fait, mais je m'en rappelle.
Non, c'était les différents milestones.
Ouais, ouais, voilà.
Donc l'Andam, le bébé.
Le bébé.
Et puis après, bah, ça continue à se développer petit à petit, bon an mal an. Non, mais c'est quoi les gros? En fait, t'as été tout de suite au top of the top, non, en fait.
Ouais, ça fait un peu prétentieux de dire ça, donc je sais pas si j'ai envie de le dire, mais je c'est pas une envie de le dire, c'est pas à moi de le dire. Mais ça a tout de suite super bien marché. J'ai eu super accueil dès le début. J'ai pas eu un creux de vague, enfin pas encore, je touche du bois, mais j'ai eu l'impression que c'était genre qu'on est dans un escalier et qu'on continue de monter les marches, quoi.
Mais justement, quand on, parce que toi, tes collections et ton ADN, ça reste, c'est très fort, quoi. On a en tête tous tes bijoux en tête et tout l'esthétique. Et tout à l'heure, quand tu parlais de Nicolas Lesquer, tu parlais de renouvellement. Toutes les saisons, on se renouvelle. Alors que là, dans une marque comme ça, on peut pas se renouveler tous les 6 mois. Tu dois marquer l'ADN, quoi.
Bah, c'est différent parce que Balenciaga, c'est une maison que Nicolas était le directeur artistique, donc c'est une maison, il peut en faire ce qu'il veut, entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui, une marque, il y en a beaucoup, beaucoup, des marques de bijoux, de vêtements, de chaussures, tout. Et il faut avoir une force, un ADN propre à soi pour se démarquer des autres. Et c'est vrai qu'il faut le marteler, entre guillemets. C'est vrai que je sais pas si Nicolas aurait fait le même travail pour une marque éponyme, par exemple. Je sais pas s'il aurait fait ses virages à 180 saison après saison, parce que tu peux en perdre sur le passage. Voilà, je pense qu'à l'époque, les enjeux économiques, ils n'étaient pas les mêmes. À l'époque, il n'y avait qu'une seule boutique. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-bas, c'était la boutique historique de l'avenue Georges V. Il y avait des points de vente, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes risques financiers. Je pense que... Bon, même si moi, quand j'ai lancé ma marque, il n'y en avait pas, mais... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tellement de marques qu'il faut trouver sa voix, quoi, son propre discours, quelque chose dans lequel on est à l'aise. Moi, c'est vrai que je me dis pas genre, ah, il faut que je trouve ma voix, c'est juste que ça s'est fait assez naturellement et les formes que j'ai commencé à explorer il y a 4 ans, j'ai toujours envie de les explorer. J'en suis pas encore lassée. J'ai encore plein de choses à voir là-dedans. Après, tu vois, j'aurais peut-être ma période bleue, tu vois, j'en sais rien, ça viendra, mais ça fait que 4 ans, c'est pas beaucoup 4 ans.
Ouais, 4 ans, c'est encore baby. Hein. D'accord. Et je sais même pas comment rebondir. Je suis nul. Ouais, donc la suite des événements, en fait, c'est quoi la suite pour Charlotte Chérie?
La suite, c'est que au début, voilà, je me lance avec pas d'attente, pas d'expectation, pas de financement en tête, pas de... Voilà. Et puis ensuite, quand tu fais ça au fur et à mesure, tu t'aperçois qu'une saison, t'as fait tel chiffre d'affaires. Donc la saison d'après, si t'as un tout petit peu l'esprit compétitif, t'as envie de faire un chiffre d'affaires plus important. Tu t'aperçois qu'il faut être plus pour le faire. Donc en fait, petit à petit, tu deviens chef d'entreprise, tu vois. T'as des employés... Tu dois contracter des mutuelles, t'as des problèmes juridiques, t'as des gens qui te copient, t'as des gens qui te disent que tu les copies, t'as plein de choses qui viennent se greffer à juste la création, quoi. C'est vrai que j'aurais jamais, enfin, aujourd'hui, la création, c'est 10% de mon travail, ouais, 10%.
Et ça te convient ou
ça me convient pas forcément. C'est pour ça que je travaille encore pour d'autres maisons à côté. C'est parce que c'est ce que je préfère faire. Donc je le fais pour d'autres maisons à côté.
Tu bosses pour qui là aujourd'hui?
Là en ce moment, je bosse pour Paco Rabanne et APC, entre autres.
En bijoux ou en accessoires?
En bijoux chez Paco et en prêt-à-porter chez APC. Et voilà. Et c'est difficile, non? C'est difficile, mais c'est intéressant. Moi, à un moment donné, je pense que si la n'importe quelle boîte créative, que ce soit des vêtements, du design ou même des films ou de la musique, je pense que c'est difficile d'être à la barre et de la créa et du business, de la gestion et tout ça. On est en train d'essayer de se restructurer, de s'organiser différemment parce que il y a des choses où j'aimerais bien être un petit peu plus naïve, des sujets sur lesquels, voilà, j'aimerais bien être un petit peu plus... Retrouver un peu de la fraîcheur du début, quand tu connais pas toutes les galères que ça peut être, quand tu connais pas... Ouais, enfin, voilà. Il y a plein de trucs après qui font que, créativement parlant, t'es plus vierge, quoi, je sais pas comment dire.
Ouais. Et t'es seule à la barre aujourd'hui ou t'as une associée?
Alors, non, la boîte m'appartient à 100%, je suis seule et après j'ai des collaborateurs, c'est des employés, enfin voilà, mais sur le papier, mais c'est des gens que voilà qui sont importants dans le développement de la boîte, primordiaux même.
Mais t'as un DG ou non? Pour l'instant, t'es encore petite, quoi.
Non, pour le moment, j'ai pas de DG, c'est moi. Je suis pas DG, quoi. Enfin, il y en a pas. Ce que je disais, j'ai une collaboratrice très proche avec qui m'a rejoint très tôt. Ça fait 4 ans qu'elle est là maintenant, et c'est un pilier pour moi, mais elle n'a pas le rôle de DG, même si souvent elle en a bien la fonction. Parce que c'est vrai que c'est aussi, moi je suis un peu perfectionniste, il y a certains trucs que j'ai peut-être du mal à lâcher, mais là ça commence à faire son chemin. Donc je pense que, voilà.
Parle-nous de l'ADN, ce serait quoi pour toi l'ADN sur la chaîne?
Ah ouais, c'est toujours des questions auxquelles j'ai du mal à répondre. Disons que, je sais pas, je me suis pris d'amour pour la forme, pour le design. de ces espèces de petites pièces métalliques qui sont des bijoux. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui c'est des bijoux, mais qu'un jour ça pourrait être autre chose. Ça dépend aussi des interactions avec les gens. C'est vrai que j'ai cet atelier extraordinaire avec qui je travaille et qui fait que voilà, aujourd'hui c'est des bijoux, mais j'ai l'impression que demain, si je rencontrais, je ne sais pas, un ébéniste, et bah, peut-être que je me mettrais à faire des trucs en bois. Enfin, c'est donc pour répondre à ta question, pardon, l'ADN de la marque, c'est que j'essaie de faire des bijoux classiques mais surprenants. Donc, quand je dis surprenant, c'est plus qu'ils ont, voilà, ils vont avoir des lignes très pures, ils vont avoir une belle présence physique, c'est-à-dire qu'ils sont pas petits et en même temps ils sont très aériens, ils sont pas lourds. Ils vont avoir voilà des lignes très pures, très classiques, mais un porté assez surprenant. Donc j'aime bien toujours voir ça comme une espèce d'équilibre, de justesse entre deux opposés, quoi. Et voilà, de bijoux que je veux en tout cas le plus intemporel possible, comme si je pouvais redéfinir mes propres classiques, quoi.
Et quand tu construis la marque, la dimension branding, genre, je sais pas si tu mets les
mots là. Pas du tout.
Ces mots-là, mais tu crées quand même un univers à toi, et une marque qui est plus que, ouais, une marque de bijoux, quoi. C'est du lifestyle. C'est...
Mais ça, à l'époque, enfin, et encore aujourd'hui, je m'en rends pas du tout compte, et je pense pas que je le fasse si bien que ça. Il y a des maisons qui le font bien mieux. Moi, vraiment, pendant 4 ans, moins récemment, mais pendant les premières années, mon obsession, c'était faire des beaux bijoux, des nouveautés régulièrement et qu'elles soient bien produites. Je t'avoue que le reste, communication, packaging, tout ça, c'était un peu plus à l'arrache. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir refaire toute l'identité graphique avec les M&M, qui a quand même été... en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lancé la marque, avant que je la lance, j'ai demandé à Mathias et Mickaël... Coucou, vous voulez bien faire mon logo ? En leur montrant rien, ils m'ont dit t'es gentil, mais bon, on a un peu débordé, ce que je comprends. Et puis en fait, j'ai lancé la marque, et puis quelques mois après, ils m'ont dit je pense que eux, ils avaient aussi envie de voir un peu ce que c'était, tu vois. Quand je suis allée les voir, j'ai vraiment pas fait opération séduction, quoi. J'y suis allée avec rien, j'aurais peut-être montré un bijou, voilà. Ça s'est pas fait. Et puis finalement, voilà. Ce qui doit se faire, se fait. Enfin, moi, je suis assez... c'est un peu ma philosophie. Et donc finalement, ça s'est fait. On s'est recroisés plusieurs fois. Et puis on s'est dit, faisons-le, travaillons ensemble. Et donc, ils sont venus au showroom. J'avais sorti plein de bijoux sur la table. Et puis, j'ai commencé à leur parler de comment je travaillais, les maquettes, tout ça, machin. Et puis, ils ont pris quelques pièces, ils sont partis. De leur côté, je savais pas trop, on n'avait pas fait de fiche de mission, quoi.
Brief.
Tu leur fais pas de brief, tu leur fais pas de fiche de mission. Déjà, tu t'es con. Déjà, t'es trop content qu'ils bossent pour toi.
C'est ouf, déjà.
Et voilà. Et donc, quelques mois après, ils m'appellent, ils me disent, ouais, tu veux bien passer au bureau, on a un peu bossé, on a des trucs à te montrer. Et quelques mois après, j'arrive, et moi, je m'attendais à avoir un logo ou quelque chose, quoi. Et en fait, j'arrive et il y avait un logo, un alphabet simple, un alphabet compliqué. Enfin, genre, il y avait un packaging, genre...
Et c'était fait plaisir.
Boum ! Genre, j'arrive, j'étais à genre... Oh ! Mais je m'attendais tellement pas à ça, c'était génial. Donc là, voilà, la dimension marque, elle devient plus concrète déjà, même si ça prend du temps aussi. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Moi, je comprenais pas forcément tout de suite. Tu vois, par exemple, Instagram, c'est un truc... Tu vois que c'est pas un outil que je manie à la perfection. Donc ouais, c'est un vrai métier. Enfin, bien sûr qu'il faut le sentir, mais il y a quand même aussi un vrai truc derrière de. Tu vois, moi j'ai jamais fait. Et d'ailleurs, je ne conseille pas aux gens de faire ça. Mais j'ai jamais fait de, je sais pas comment t'appelles ça, de brand book ou, par exemple, si demain il faut présenter la marque à un investisseur, on n'a rien, on n'a pas de document. Ou même avant même de présenter un investisseur, si on veut aller chercher tel acheteur aux États-Unis et qu'on veut lui présenter la marque, jusqu'à il y a pas très longtemps, on n'avait pas de document. C'était genre, regarde le site. Parce que voilà, je me disais, les bijoux, ça suffit. Se suffisent à eux-mêmes. Sauf qu'en fait, non. Aujourd'hui, il faut...
Et vous avez fait quoi comme document, alors ?
Maintenant, je sais pas, les filles, elles ont fait un document.
Ok.
Bon, on retravaille tout le temps dessus parce que c'est jamais terminé, mais c'est vrai que pour ça, typiquement, je m'entoure parce que c'est pas là-dedans que je suis la meilleure.
Mais sur Instagram, tu t'entoures aussi ?
Ouais, bah depuis 4-5 mois, il y a quelqu'un qui m'aide. Alors c'est drôle, c'est qu'on fait des photos tous les deux et c'est toujours celle qui marche le mieux. Alors que quand on fait des photos genre Viviane Sassen, Marthe May, ça marche genre ça marche pas dingo, et les photos pourries à l'iPhone, ça marche. Donc ça c'est drôle. Enfin bon, mais après j'en ai parlé avec quelqu'un qui bosse sur Instagram qui m'a dit que c'était ça pour tout le monde. Mais donc depuis quelques temps, ouais, j'ai quelqu'un qui m'aide sur Instagram, et pas que sur Instagram. C'est quelqu'un qui m'aide sur la dimension, on va dire DA, hors bijoux. Tu vois, qui va m'aider sur le site, les directions qu'on peut prendre.
Et par exemple, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait de plus ?
Bah là, on est en train de le refaire encore.
Le site,
ouais.
Et sur Instagram, qu'est-ce que vous avez fait de...
Bah, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que... Bah, de sensationnel, je ne sais pas, mais est-ce que vraiment on peut faire des choses sensationnelles sur Instagram ? Je ne suis pas sûre. Mais bah, déjà, on poste plus régulièrement, parce que j'étais quand même à un poste par mois, deux postes par mois. J'étais assez... pas très généreuse. Donc maintenant, on donne un peu plus.
Mais ça se ressent sur les ventes ? Tu sens un peu ou pas ?
Non. Pas plus que ça pour le moment, mais aussi parce que notre site, il est peut-être pas encore optimum non plus, tu vois. Je pourrais peut-être t'en reparler.
Ouais. Tu le fais parce qu'il faut le faire ou ça te fait kiffer de le faire ?
Plus parce qu'il faut le faire. C'est pas du tout ma partie préférée du job. Et par exemple, je sais que là, Instagram est en test en Italie et en Australie pour cacher les likes.
Ça t'excite ?
Bah ça, en vrai, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, mais tu vois, si ça se trouve, c'est fini Instagram. Si ça se trouve, dans un an, on n'en parlera plus. C'est un peu un genre, enfin voilà, moi maintenant, c'est un peu un sale truc quand même Instagram, enfin un sale truc.
Non, c'est bullshit à mort.
Ouais, hein, c'est à la fois génial, parce que ça permet aux jeunes designers de se faire connaître, d'émerger, pas que aux jeunes designers, aux jeunes talents quoi, de manière générale. Mais putain, c'est...
C'est oppressant.
Ah ouais, c'est oppressant. Moi maintenant, je regarde vraiment plus beaucoup, ça me manque pas du tout. J'ai plein de gens autour de moi qui ont carrément fermé leur compte. Après, oui, aujourd'hui, ça reste un outil de communication extraordinaire.
Mais c'est quoi les autres outils aujourd'hui ? Parce que la presse, on dit que ça vend pas trop. Que...
Ouais, bah aujourd'hui, t'as quand même... Bah, je peux pas te dire. C'est difficile parce que moi, j'ai pas de boutique en propre. Donc, les revendeurs, ils me disent pas « Ah, on a vendu suite à ça ou suite à ça, sauf des choses anecdotiques. » Je sais pas, je te dis une connerie... Une actrice française en couverture du L qui va porter un bijou. Bon, bah, il y a une boutique à Paris qui me revend, qui va me dire, ah oui, on nous a demandé ce modèle. Mais sinon, vu que tous nos 80%, 85% de notre chiffre d'affaires se refait par des revendeurs, déjà que c'est compliqué d'obtenir les reventes en temps et en heure, et alors d'obtenir les reventes et les raisons pour lesquelles ils ont revendu, c'est encore plus compliqué. Donc, moi, j'ai du mal, c'est assez opaque encore le fait de savoir à quel point Instagram ou la presse vont avoir un impact ou pas sur tes ventes. Je pense que les gens qui ont des boutiques en propre, eux, savent beaucoup plus, peuvent beaucoup plus ressentir ça. Moi, j'ai un peu de mal encore. C'est difficile. Ouais. Parce que je suis pas en direct avec le client final. Ouais. Très peu.
Et comment tu bosses avec Lucien ? C'est quoi, ça ressemble à quoi les meetings avec Lucien ?
On déjeune. En général, on parle de boulot à la fin. À la fin ou au début, où on se plaint parce qu'on dit qu'on est trop fatigué et qu'on fait trop de trucs et qu'on sait qu'on ne devrait pas accepter autant de trucs tous les deux, mais qu'on le fait quand même. Enfin bref, on n'a pas besoin de s'expliquer l'un à l'autre parce qu'en fait, on est un peu dans des situations similaires. Très différentes, mais similaires quand même. Moi, je lui fais confiance. Je considère que voilà, j'ai la chance d'être entourée de gens qui savent ce qu'ils font et chacun son métier, quoi. Je suis pas du tout freak control sur des trucs où je sais que c'est pas ma spécialité.
Tu demandes pas des rapports toutes les semaines ?
Non, pas du tout.
T'es en mode.
Pas du tout. Non, je suis
confiance. Bah,
ouais.
C'est...
ouais, ouais.
J'ai l'impression que tu t'es créé une crew autour de toi.
Ouais, vraiment. Mais enfin, ça fonctionne parce que j'ai de la chance d'avoir des gens extraordinaires aussi dans leur métier qui sont autour de moi, donc peut-être c'est ça aussi que je suis en confiance. Mais
ouais, t'es un peu avec les meilleurs, quoi. C'est quand
même... Oui, bah après tout ça c'est subjectif, tu vois. Oui. Le meilleur aux yeux de qui, mais c'est vrai que moi je suis ravie d'être avec Lucien. Les M&M, je pouvais pas rêver mieux. Je travaille avec Viviane Sassen, c'est génial. Enfin voilà, je suis trop contente.
Ok, et raconte-nous tout ton travail de freelance avec APC quand même et
Paco.
Et Paco, c'est comment ça se passe ?
Ben, ça se passe de manière hyper fluide. Ce qui se passe chez Paco, par exemple, c'est que Julien me fait confiance. Je pense que je peux dire assez facilement que c'est voilà qu'il me fait confiance, donc j'ai pas mal de liberté. Et c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant pour moi, parce que comme j'ai ma propre marque, j'aurais du mal à me remettre au service d'un autre designer. Mais avec Julien, on n'a pas du tout ce rapport-là. Il me donne un brief en général assez large, hyper inspirant. Et puis moi, je pars, je fais des choses, je lui montre. Il aime ça, il aime pas ça. J'avance, c'est assez fluide. Donc voilà, il y a 4 collections par an, 2 pour les défilés, 2 pour les pré-colles. Et puis à côté, voilà, t'as des demandes plus commerciales que les équipes de Paco me font, qui m'excitent un peu moins, mais bon, je comprends qu'il faille les faire. Et avec APC, c'est différent. Je travaille avec Jean et Judith, un peu plus avec Judith sur les collections, mais avec Jean aussi. Et là, c'est plus une rencontre qui s'est faite on se connaissait mal depuis longtemps. Et il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. Un peu par hasard, enfin c'est jamais par hasard, mais voilà, il cherchait quelqu'un pour les aider sur la collection femmes. Et voilà, j'ai été dans le radar, on a commencé à travailler ensemble, ça s'est hyper bien passé au bout de... Enfin, je me rappelle vraiment, on a eu l'impression de... Tu sais, souvent quand tu commences à travailler avec quelqu'un, il y a toujours un moment d'adaptation, que tu parles un peu la même langue, que tu comprennes l'autre. Et nous, cette période, elle a été hyper courte, ça a été hyper fluide. Et voilà, je donne des inspirations très larges en début de saison, mais de mes envies, en fait. C'est même pas des inspirations où je me dis « Ah, cette saison, on va faire 70 », c'est plus genre « J'ai envie de quoi ?» Donc je donne des docs de maille, des docs des prints, des formes, des filles, des mecs, enfin voilà, c'est très large. Je les partage avec Judith.
C'est quoi, t'imprimes plein de trucs et tu montres les choses ?
Même pas, je les imprime pas parce que je suis anti-gaspi. Donc je les imprime pas, je fais des dossiers sur ma Dropbox que je partage avec elle. Et elle fait une petite digestion de tout ça, avec ses propres inspirations à elle. Et puis ensuite, on regarde un peu les tissus ensemble. Et puis ensuite, on voit ce qu'on va faire, dans quelle matière. Et là, moi, je dessine, on se partage les croquis. Donc voilà. Moi, je dessine une partie des croquis et le studio APC dessine une autre partie. D'accord. Et après, bah, c'est pas moi ce qui me plaît dans cette démarche, c'est que ça correspond bien à ma vie d'aujourd'hui. C'est que dessiner des vêtements que je peux mettre tous les jours, dans lesquels je vais être confortable et élégante, et que je peux mettre aussi bien la semaine que le week-end. Qui vont aller. Enfin, je trouve qu'APC, il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent se vanter d'habiller les hommes et les femmes de 15 à 95 ans. 95, j'exagère peut-être, et encore, de manière élégante, pas vulgaire, chic. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc, genre, il n'y a pas beaucoup de marques qui remplissent cette case-là. Donc, il y a un truc de très de pratique, je sais pas comment dire, de. Voilà, ça correspond très bien avec mon mode de vie actuel. J'ai 3 enfants, je suis hyper active. Donc, aujourd'hui, clairement, tous mes vêtements époque Balenciaga, avec les vestes où je peux pas lever le bras, bah, je les mets pas, quoi, elles sont à la cave. Donc, c'est des périodes, en fait, c'est des périodes qui font qu'aujourd'hui, j'ai plus le même rapport à la mode du tout qu'avant.
Et qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite, alors ?
Bah, qu'on continue cette belle aventure sur la même lancée qu'on a commencé les 4 premières années. C'est voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un challenge aussi parce qu'aujourd'hui j'ai des employés, que avant j'étais toute seule. Si demain je me cassais la gueule toute seule. Maintenant j'ai une responsabilité, je sais pas si sociale c'est le mot, mais c'est ça aussi avoir une entreprise, c'est que voilà, de filer des jobs à des gens, de les payer à la fin du mois, je trouve que ça fait partie de l'aventure et que c'est génial aussi, en fait, de voir comment tu peux les faire évoluer, l'interaction que tu peux avoir avec eux, les connivences. Parfois ça le fait pas, mais quand ça le fait pas, bah, c'est pas grave, moi j'essaie toujours de comprendre, d'essayer de retenir des leçons de pourquoi ça l'a pas fait, est-ce que c'est moi qui ai pas bien expliquer les choses, comment je peux refaire. Enfin, j'essaie de tirer des conclusions, pas des conclusions, mais de tirer des leçons en tout cas. Donc voilà, c'est un vrai challenge parce que tu deviens, voilà, enfin, éventuellement t'es déjà créateur et après tu deviens directeur des ressources humaines, directeur du, tu vois, directeur financier, directeur commercial. J'exagère parce que je suis pas du tout toute seule et j'ai plein de gens qui m'aident et qui me conseillent. J'ai beaucoup de chance.
Il faut que tu comprennes tout ça quand même.
Mais il faut comprendre tout ça. Il faut être un peu chef d'orchestre de tout ça, tu vois. Mmh. Parce qu'au final, c'est moi qui ai le final call. Donc, parfois, c'est un peu, voilà. Ça peut m'empêcher de dormir la nuit. Voilà. Ça peut me faire des petites plaques dans le cou, là, comme en ce moment. Mais c'est trop chouette. C'est une aventure extraordinaire. Je dors pas beaucoup. Je vois pas forcément autant mes enfants que je le souhaiterais, mais ça reste génial.
Mmh. Et ça ressemble à quoi, alors, tes journées? T'enchaînes.
Ouais. J'enchaîne. Je me lève pas si tôt que ça. Maintenant, les jumeaux, ils sont un peu grands, donc je me lève à 7 heures.
Ah, parce qu'en plus, c'était des jumeaux.
J'en ai trois. Ouais. Non, l'Andam, c'était un, et ensuite, d'accord, j'en ai eu deux. Okay. Et je me lève à 7 heures, je décolle de la maison vers 8h30. Ouais. Je fais une multitude de rendez-vous, pas du tout dans le même endroit.
Ouais.
Parce que comme je travaille en freelance pour d'autres maisons, que j'ai mes bureaux dans le premier et que mon atelier, il est à l'autre bout de Paris, bah, je passe ma vie en vélo à traverser Paris.
Ouais.
Je rentre à la maison vers 19h30, 20h. Et en période de Fashion Week, bah, je rentre pas forcément à la maison parce qu'il y a des dîners avec des acheteurs ou de la presse ou des choses comme ça. En revanche, j'ai une règle, c'est que à part les... Ça va, t'entends là ?
Ouais.
Ouais. À part les Fashion Week intenses, je travaille pas le week-end. Et ça, c'est très rare que je travaille le week-end.
Mmh. Les... Tu t'obliges à ne pas travailler le week-end.
Ouais, je travaille pas le week-end et je lis mes mails. Mais je vais pas me poser à mon bureau du week-end, c'est très rare que ça arrive. En revanche, par exemple, une fois que les enfants sont couchés à 20h30, je peux me remettre à mon bureau jusqu'à minuit, ça arrive hyper souvent. Mais le week-end, c'est eux. C'est eux, c'est mon amoureux, c'est voilà.
La dimension... ton creative process à toi, tout à l'heure, je te l'ai pas posé, tu m'as expliqué comment tu faisais avec APC, mais est-ce que c'est exactement pareil, toi ?
Non, pour moi, j'y signe très peu. Parce que je ne sais pas dessiner, donc rapidement j'ai trouvé cette parade de faire tout de suite les trucs en 3D. Donc au début je faisais pas mal en espèce de pâte à modeler qui durcit à l'air, et puis ensuite voilà, j'ai commencé direct même à faire en laiton tout de suite, parce que comme je sais pas dessiner, bah fallait bien que je trouve une autre solution. Et en fait c'est ça qui a donné un peu la espèce de dimension à mon travail, c'est que j'arrive à faire des choses à l'atelier que je n'aurais même pas l'idée de dessiner. Je peux pas te raconter comment les pièces naissent. En fait, c'est une interaction qui se passe avec la personne à l'atelier. On réfléchit ensemble. Je fais un croquis. Elle l'a compris autrement que ce que moi j'avais fait. Donc, elle me le fait. Donc, moi, ça me fait réfléchir sur ce qu'elle a fait. Donc, je l'emmène encore ailleurs. C'est vraiment un ping-pong. Et j'ai beaucoup, souvent, tu sais, les magazines, ils disent, ah, donnez-nous des images d'inspi, tout ça. Et je peux pas parce que j'ai pas vraiment d'image d'inspi. Pour le moment, c'est encore, un peu ce que j'ai dessiné que j'ai commencé à dessiner il y a 4 ans, et j'arrive encore à surfer là-dessus sur des courbes, des formes un peu douces mais en même temps sharp, des fils évolutifs très fins qui deviennent très gros. Donc voilà, c'est encore tous les codes que j'ai commencé un peu à travailler, je dis des codes parce qu'aujourd'hui on appelle ça les codes, mais à l'époque je me rendais pas compte que je voilà. Donc mon process créatif, c'est un peu celui-là, c'est que je vais à l'atelier tout le temps. Je m'arrête pour ainsi dire jamais, et puis dès qu'il y a quelques pièces qui sont bien, enfin ça fait une nouvelle collection, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a pas un moment où je m'arrête plus qu'un autre. Et puis des pièces qui n'y voient pas le jour tout de suite, il y en a plein, j'en ai plein mes tiroirs ici. Et puis souvent quand il faut entre guillemets ressortir une nouvelle collection, d'ailleurs on n'appelle pas ça des collections, on appelle plutôt ça des chapitres, parce que c'est des nouveautés qui répondent, qui sont très liées aux premières collections, aux deuxièmes, aux troisièmes, tout ça est assez cohérent. Et souvent voilà, je vais retravailler un objet que j'avais arrêté de bosser il y a 6 mois parce qu'il me plaisait pas, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, et aujourd'hui je le vois différemment, ou aujourd'hui je le trouve super alors qu'il y a 3 ans je l'aimais plus. Enfin, j'ai plein de choses que je reprends et j'arrête, je reprends et j'arrête, et
tu
voilà.
Tu mets tout dans tes Dropbox et tu y reviens par dessus?
Non, pas forcément. Non, je te dis, j'ai des maquettes, j'ai des boîtes avec des maquettes quoi. Okay. Et je travaille comme des ébauches de choses quoi. Ouais.
T'as fait une collab avec Byredo? Tu peux nous en parler, comment ça s'est
fait? Ça s'est fait que Ben et moi, on a été présentés par Lucien il y a longtemps, assez tôt, genre je dirais il y a peut-être 4 ans, 3-4 ans. J'avais déjà la marque, mais c'était au tout début. Et puis, moi, quand j'ai lancé la marque, rapidement, quelques, voilà, 7-8 mois après, on m'a proposé des collabs qui m'excitaient pas trop. Et puis, en plus, je voyais pas trop le truc de faire une collab, alors que moi-même, j'étais pas encore très bien installée. Donc, ouais, je me disais, ça va un peu brouiller les pistes, les gens vont pas comprendre, ils vont dire, mais c'est qui celle-là? Enfin, voilà. J'avais pas super envie. Mais voilà, on m'en a proposé quelques-unes, et à un moment donné, je me dis, bah, au lieu de... Je vais prendre le truc à l'envers, en fait. Je me suis dit, avec qui, toi, t'as envie de collaborer? Avec quelle marque tu trouves que ce serait cool d'associer ton univers créatif et tout ça? Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à Byredo. Je suis allée le voir et je lui ai proposé, ça te dirait qu'on bosse ensemble? Et il a dit oui. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Mmh. Et ça a mis un peu de temps parce qu'au début, on a commencé par un premier projet dont moi, j'étais pas très contente. Donc, on l'a laissé tomber. Puis un deuxième... qui a été compliqué pour je sais plus quelle raison. Puis ensuite, j'ai eu les jumeaux. Donc voilà, ça s'est un peu calmé. Et puis quand j'ai eu à accoucher, on s'est vu. Je commençais à travailler sur une chaîne pour moi parce que je voulais faire une chaîne pour moi. Ça faisait longtemps que je voulais faire la chaîne de la maison. Et je commence à lui en parler. Et après, il m'appelle, il me dit, mais attends, mais moi aussi, ça fait longtemps que j'y pense. On l'a fait cette collab et tout ça. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Mmh. Voilà.
Et qu'est-ce que tu trouves de bien chez lui?
Parce que je trouve génial dans le projet Byredo, c'est que il a commencé par le parfum alors qu'il ne sait rien, il y connaissait rien, un peu comme moi quand j'ai commencé les bijoux. Et ce qui est sympathique dans ces personnalités là, c'est que du coup on se refuse rien, on connaît pas les règles, on connaît pas les contraintes,
les codes,
donc on y va en fait. Et les fabricants souvent, parfois ça arrive qu'ils nous rionnaient ou qu'ils disent mais non mais ça c'est pas possible. Et puis il y a ceux qui sont un peu genre piqués de curiosité et qui disent ah bah en fait on va essayer, ça peut être drôle et tout ça. Et c'est un peu comme ça que Ben a commencé. Il a commencé à faire des bougies dans sa cuisine, il y connaissait rien aux odeurs, tout ça. Et puis il a étendu ça, même si aujourd'hui ça reste une marque principalement de parfums, mais il a commencé à faire des sacs, il a fait d'autres objets en collaboration avec les M&M. Donc on a pas mal de connexions. Ouais, ça s'est fait voilà. Donc c'est super en fait parce que j'ai fait quelque chose pour Byredo que j'aurais pas fait seule, je pense. Donc c'est ça l'intérêt d'une collab, je trouve. C'est quand ça t'emmène là où toi tu serais pas allé seule.
Et toi qui navigues dans cet univers, dans l'industrie de la mode depuis 15 ans maintenant.
Ouais.
Comment tu vois les choses évoluer? Enfin, comment t'as vu les choses évoluer et comment tu vois les choses évoluer? Est-ce que ça t'excite encore?
Pas beaucoup. C'est pour ça que je suis ravie d'en être un peu sortie quand même parce que j'y suis avec le bijou, mais le bijou, c'est différent. C'est quand même plus... C'est dans la mode, mais c'est aussi dans le design. C'est aussi dans le gris-gris, dans la transmission, dans des cadeaux qu'on fait pour des relations, pour des événements très spéciaux. Donc, il y a un truc un peu différent quand même dans le bijou. C'est vrai que moi, la mode, je suis un peu... c'est peut-être pas très politiquement correct, mais je suis un peu dégoûtée de... Comme beaucoup, je pense, aujourd'hui. De cette
la tournure que ça a pris.
Ouais, de toutes les collections en pagaille. On n'a pas besoin d'autant de vêtements. On sait que c'est une industrie qui pollue énormément. Et malgré ça, on fait rien. Voilà, on fait des pauvres, des pauvres. Bref.
On fait des pauvres quoi?
Je sais pas, des conseils avec des bonnes intentions, mais ouais. En vrai, la bonne intention, c'est...
Juste d'arrêter de grandir et de grossir.
Ouais, ou c'est de faire moins, en fait. De faire moins, mais de faire mieux, de faire en édition plus limitée, de faire moins de collections. On n'a pas besoin d'avoir 6 collections par an. Et le problème, c'est que si tu ne joues pas le jeu, tu peux te faire bouffer, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que si toi, tu dis, bah, moi, je ne vais faire que 2 collections par an, donc tu vas livrer le bon marché, tu fais que 2 collections par an. À côté, il y a quelqu'un qui lui en fait 4, parce qu'il a accepté de jouer le jeu d'en faire 4, ce qui commence à être beaucoup. Je te parle même pas des maisons qui en font 6. Eux, ils vont livrer plus souvent. Donc toi, ton rack, il a l'air pourri, parce que toi, t'as livré en décembre, et puis ensuite, t'as prévu de relivrer qu'en juin, donc entre décembre et juin, il se passe rien. Donc soit on te remplace par quelqu'un d'autre, soit ton rack, il a l'air... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une réalité où je jette pas la pierre aux maisons qui le font parce que c'est aussi un espèce de moyen d'exister. Je pense juste qu'il faut qu'il y ait un truc beaucoup plus global en fait qui doit être fait. Comme je vais pas rentrer là-dedans, mais comme par exemple je sais pas, peut-être qu'on pourrait avoir des espèces de tickets de rationnement pour la viande aujourd'hui. Bah peut-être qu'on pourrait imaginer une espèce de truc plus légiféré où on aurait le droit de produire peut-être que tant de pièces par an, que ce soit un petit peu plus contrôlé, parce que là je trouve que ça part quand même en vrille. Il y en a partout, il y a des nouvelles marques tout le temps, il y a des collections, il y a, je sais pas, c'est vrai que c'est un peu ça donne le, enfin moi depuis que j'ai eu des enfants, ma façon de consommer elle est très différente, et c'est vrai que même la façon dont on construit les collections, on fait 5-6 bijoux nouveaux à chaque nouveau chapitre, c'est quelques 5 ou 6 bijoux nouveaux. Je pousse pas du tout à la nouveauté. On adore encore vendre les pièces du début. On les vend encore très bien et on fait des bijoux en vermeil qu'on propose. On propose de les revermeiller pour leur redonner un éclat, une seconde vie. Donc voilà, c'est un peu. Ça, c'est difficile aussi à gérer, d'être à la tête d'une marque et de produire plus, mais en même temps, de l'autre côté, de te dire que
ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Donc, j'ai pas la réponse.
Mais t'as des pistes quand même, c'est intéressant.
Mais je sais pas. Je pense qu'il y a une autre façon de faire les choses et j'aimerais vraiment bien que, voilà, parce que ça commence à me mettre hyper mal à l'aise. Ça me met assez mal à l'aise, je dois dire. Je sais pas comment réagir. Je suis un peu dégoûtée par les maisons qui font voyager tout le monde aux quatre coins du monde pour un défilé d'un quart d'heure. Je sais pas. C'est un peu genre bad vibe peut-être de dire ça, mais...
Non, moi je suis complètement alignée avec toi.
Je sais pas si... Je sais pas. Il y a d'autres manières de faire. Puis c'est une espèce d'escalade. Quand on voit la misère qu'il y a dans le monde aujourd'hui, et ce qu'une maison est prête à dépenser en une semaine pour un défilé d'un quart d'heure, je sais pas, c'est hyper
C'est malsain, ouais. Mais de toute façon, je pense que tout le monde se pose cette même question aujourd'hui, hein, tous les gens.
Ouais, peut-être pas les bonnes personnes en fait.
Ouais, mais ouais.
Peut-être pas ceux qui ont un pouvoir. Ou alors ils se la posent de manière politiquement correcte. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des acteurs dans la mode qui pourraient agir et qui auraient une influence sur tous les autres. Mmh. On les connaît.
Oui, LVMH, Kering et toute la clique. Mmh. Enfin, ils sont toujours les mêmes. Mmh. Monsieur Bernard Arnault. On va pas trop balancer. Non, mais je suis d'accord avec toi.
Une nouvelle marque? Pourquoi Rihanna fait une marque?
Elle a pas assez de pognon.
Mais c'est même pas. Enfin, tu vois. Pourquoi LVMH lance la marque de Rihanna? Elle avait fait plein de collabs avec d'autres marques. Ok, c'est une super chanteuse. C'est une super artiste.
Mais génial.
Mais
pourquoi?
Pourquoi encore une nouvelle marque? Mais je te parle de Rihanna. Je te dis un truc au pif. Mais en plus, financièrement parlant, elle en a pas besoin, la fille. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais je sais pas. Il y a trop de tout, en fait. Moi, j'ai plus envie de... C'est pour ça que c'est difficile aussi dans la direction que j'ai envie de donner à la maison. C'est que moi, j'ai envie de rester une petite maison. Et quand je dis petit, c'est que j'ai envie de connaître les gens avec qui je travaille. J'ai envie d'avoir une relation particulière avec eux. J'ai envie... Donc il faut gérer tout ça aussi, tu vois.
Mais en même temps, ce que tu expliques très bien tout à l'heure... Attends, est-ce que je m'entends? Ouais. Ce que tu expliquais très bien tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, à notre époque, si tu grandis pas, tu meurs.
Oui, mais je pense qu'il y a des manières différentes de faire les choses et on va essayer, on essaie en tout cas. Ce qui est assez horrible parfois, c'est que je me dis, ah là là, je culpabilise énormément de faire ce que je fais, alors que je le fais depuis 4 ans, que je suis une toute petite maison, que je fais 15 nouvelles pièces par an. Et que c'est moi qui me mets à culpabiliser pour toutes ces maisons qui font des millions de références par an, qui en brûlent la moitié. Enfin, maintenant, ils les brûlent plus. Je sais pas ce qu'ils en font. Mais bon, bref, pendant longtemps, ils les brûlaient. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, ça fait chier, en fait. Ça fait chier de culpabiliser pour ces gens-là, entre guillemets, tu vois. C'est un peu comme les lobbies du plastique là qui te font culpabiliser parce que c'est toi qui es dégueulasse et qui laisse ton plastique par terre, alors qu'en fait c'est bien plus compliqué que ça. Et si tu prends de la hauteur, tu vois, c'est pas le consommateur qui jette sa bouteille en plastique, c'est qu'à la base on est inondé de plastique. Donc voilà, il y a un truc qui, moi, je suis assez ambivalente là-dessus. Je me dis, il y a des moments où je culpabilise à mort et je suis genre, ah, je vais arrêter, je vais aller planter des olives dans le sud de la France, tu vois. Et d'autres, je me dis, bah non, en fait, il y a quand même des manières. Enfin, moi, je pense pas, voilà, je pense que il y a des manières, il y a manière et manière de faire, peut-être, de la création et du développement commercial. Et c'est vrai que je pense pas que le mien soit le plus responsable de tout de ce dont on parle. Mmh.
Très bien. Ben, on finit peut-être sur ces mots un peu tristes.
Wouhou!
Non, mais c'est parce que je pense en même temps, parce que juste après toi, là, je vais participer à une table ronde avec des gens de Kering et ouais. Notamment les responsables sustainability de chez Kering.
Ouais.
Et c'est vrai que bon, eux, ils font plein de choses très
bien.
Oui,
je suis sûr qu'ils font plein de choses. Ils sont embauchés pour ça. Donc, j'imagine qu'ils font plein de choses.
Ouais. Mais d'un autre côté, la réalité, c'est qu'il faut leur dire, mais il faut arrêter de produire autant de collections, quoi. Il faut arrêter de cette course à l'échalote. C'est ça le vrai sujet. C'est votre business model qui ne tient plus la route par rapport à notre monde.
Je pense que si jamais, parce que tu vois, par exemple, des groupes comme Kering ou comme LVMH, ils ont tellement de moyens financiers qu'ils peuvent aussi se permettre de faire des choses sans trop se stresser si ça va fonctionner ou pas, parce que c'est vrai qu'ils ont les reins solides. Ne serait-ce que quand t'es une petite maison, t'as pas ce choix, t'as pas cette richesse de...
T'as pas la trésorerie pour te permettre des choses...
Oui, quoi. Donc tu dois être plus straight to the point. Tu peux pas faire tant de références parce que t'as les moyens d'en développer. Tu peux pas faire 30 références et voir lesquelles vont marcher parce que tu n'as les moyens d'en développer que 5. Mmh. Donc t'en fais 5. Mmh. Donc tu édites. Et en fait, toutes ces maisons, presque, elles subissent maintenant le fait qu'elles ont trop de moyens, presque, en fait. Parce que ben, quand t'as des moyens, quand t'as pas besoin de choisir, tu commandes tout le menu. Donc derrière, tu vois... Je pense qu'aussi les plus petites maisons, elles présentent pas des collections aussi fleuves, des collections aussi avec des rythmes aussi effrénés et tout ça.
Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? Enfin, toi qui es une petite marque ou...
Bah, moi, par exemple, dans ma manière de nous, à notre niveau, en tant que petite marque, bah, moi, voilà, j'essaie d'expliquer aux gens comment sont fabriqués mes bijoux. Ils sont faits en France, ils sont en vermeil. C'est pour ça qu'ils coûtent ce prix-là et qu'ils sont pas faits en laiton galvanisé en Thaïlande ou en des choses comme ça. C'est
juste expliquer les choses, faire de la pédagogie.
J'explique les choses. Il y a différentes manières de consommer, en fait, je pense. Et donc, le consommateur, il faut qu'il soit éduqué pour comprendre. Donc, c'est un peu ça, nous, notre rôle, c'est d'expliquer un maximum, d'éduquer. Et puis voilà, côté consommateur, moi, c'est vrai que je consomme pas du tout de la même manière qu'avant, quoi. Aussi. Je dois dire. Mais je pense pas que moi, tout le monde en fait. Tout le monde. Je n'ai pas une copine autour de moi qui achète comme il achetait avant. Tu vois, c'est vrai que depuis 2 ans, enfin c'est présent depuis longtemps, mais je dirais que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est très très fort quand même.
Switché. Qu'est-ce que tu dirais à Charlotte, 20 ans, qui arrive au studio Berceau ? Enfin, même un petit peu avant, alors parce que 18 ans quoi.
Qu'est-ce que je lui dirais ?
Ouais. Get ready.
Ouais, je sais pas. Je te dis, j'ai pas de regrets sur rien. Je suis pas quelqu'un qui a des regrets ou alors.
Non, mais t'as rien loupé donc. T'as rien loupé quoi, pour l'instant.
Non, vraiment, en plus, ce qui était dur, c'était. Voilà, je te dis, c'est le moment dont je parlais tout à l'heure. C'est que, comme j'ai commencé à travailler très tôt, je pense que ça m'est un peu monté à la tête. Aussi, je travaillais dans une maison qui était très sexy et tout ça. Donc il y a peut-être eu un moment où c'était compliqué à gérer avec mes amis, avec les gens, avec ma famille, parce que voilà, je voyageais à New York en business, j'avais 22 ans, j'y allais tous les mois.
T'as monté à la tête.
Ouais, ouais. Et ça, c'était dur à gérer. Enfin voilà, c'est difficile à gérer quand on travaille très jeune et qu'on fait des choses qu'on est peut-être censé faire un peu plus tard. Il y a un décalage de maturité, quoi. Donc, c'est vrai que... Mais ça, je m'en suis aperçue qu'après. Donc, c'est juste ça. C'est essayer de garder la tête froide. Mais quand t'es jeune, en même temps, bah, c'est fou ce qui t'a... Enfin, moi, ce qui m'est arrivé, c'était fou. C'était génial. Donc, je regrette pas d'en avoir profité comme ça. Mais voilà. Le seul conseil voilà, que je pourrais donner à quelqu'un qui veut entreprendre dans la mode, c'est d'aller vraiment se faire des armes dans une maison. Parce que c'est fou ce que ces formateurs et de gens qu'on va rencontrer. C'est pas que la formation, mais c'est aussi le réseau qu'on va se construire. C'est que moi, je me rappelle très bien qu'un des premiers rendez-vous que j'ai fait chez Balenciaga, je crois que c'était mon premier jour, ma première heure, je me retrouve dans le bureau de la directrice du développement Je comprenais pas ce qu'elle faisait. Enfin, c'est pareil, j'avais pas encore très bien compris qui faisait quoi, pour quelle raison. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que je recroise régulièrement, qui travaille dans une autre maison. On travaille pas ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un, si demain je sens qu'elle peut me débloquer une situation, je l'appellerai. Et voilà, tout ça, c'est quelque chose qui s'est fait parce que j'ai travaillé 9 ans à ses côtés. C'en est une parmi tant d'autres, mais ça a pas de prix, en fait. Le jour où on veut se lancer, d'être bien entouré, c'est génial. Et vraiment, moi, je connaissais rien quand je suis arrivée à Paris. J'ai personne dans mon entourage qui travaille dans la mode. Voilà, ça peut marcher, en fait. Et ça marche aussi pour Julien, ça marche aussi pour Simon, chez Jacquemus. Enfin, c'est possible, en fait, c'est possible. Et en l'occurrence, moi, mon conseil, c'est de travailler dans des maisons. Simon, si je ne dis pas de bêtises, lui, il n'a jamais bossé dans une maison avant, donc c'est le mien. C'est pas une ligne de conduite, c'est juste un conseil.
Qu'est-ce qui t'impressionne aujourd'hui dans l'industrie ? C'était pas le bon mot, impressionné.
Mais si, par exemple, mais qui m'impressionne, mais qui est mort, c'était Alaya. Parce que
parce que lui, pour le coup, il faisait ce qu'il voulait.
Il imposait son calendrier. Il avait une désirabilité qu'on aime ou qu'on n'aime pas le produit, mais il y avait un vrai truc, que je trouvais génial, de grandes petites maisons. C'est-à-dire que c'était mondialement coutume, mais ça restait une petite maison avec la. Enfin, ça, c'est pour moi, c'est assez exemplaire. Après, à d'autres niveaux, la maison Hermès, c'est une maison qui m'impressionne aussi énormément parce que ils ont su établir des codes, ils ont une façon de fabriquer les choses impeccables. Entre guillemets, on sait que si on va chez Hermès, on va payer quelque chose de très cher, mais si on essaie de comprendre pourquoi c'est très cher, on va comprendre. Enfin, si on est un peu curieux, on va comprendre pourquoi c'est très cher. Je suis pas sûre que toutes les autres maisons des autres groupes soient capables de fournir le même niveau. Enfin, je sais pas que je suis pas sûre, c'est que
certain.
C'est certain même. Donc voilà, ça va plus être des gens qui vont essayer de tracer leur route et d'avoir une exigence personnelle qui va avoir un impact sur leur travail, en fait. C'est ça qui m'inspire.
Et si ça s'arrête, tout ça, tu ferais quoi ?
Plein de choses, j'imagine. Parce que, tu sais, comme je suis quelqu'un d'assez curieux, je sais pas, j'adorerais dessiner d'autres choses. Bon, si c'était pas dessiné, je sais pas, j'adore. En ce moment, par exemple, j'ai pas du tout le temps de lire. J'adorerais passer 6 mois à lire, rien d'autre. J'ai tellement pas le temps de faire plein de trucs. Je vois pas mes enfants beaucoup. Je voyage pas comme je le voudrais, parce que quand je voyage, c'est pour le boulot. Donc voilà, si ça s'arrêtait demain, bah, ce serait génial. Ce qui m'est arrivé. Et puis, je sais pas. J'irai vivre à la campagne, je crois. Je crois que je me casserai de Paris.
Très bien. Et ben, on va s'arrêter là. Dernière question que je pose toujours à mes invités, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Mathias. Mathias de M&M.
Ah ouais, bah ouais. Si tu veux bien me les présenter, ça serait.
Ah bah avec plaisir. Un gros kiff. Je pense qu'il le fera avec plaisir en plus.
Trop bien.
Ah ouais.
Et ben, merci infiniment, Charlotte.
De rien.
Pour la suite. Salut. Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.